Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons aborder un domaine qui nous touche tous. Nous avons prié le Seigneur qu'il amène sa lumière dans nos vies, et quand le Seigneur est venu, il nous a apporté de la lumière, non seulement parce qu'il est la lumière, mais parce qu'il a mis en lumière les différents domaines fondamentaux de l'existence humaine. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Nous étudions le sermon sur la montagne au fil du texte et nous arrivons à un endroit où Jésus réoriente nos passions. Je suis conscient que nous avons dans l'assistance, sans compter ceux qui nous écoutent par Internet, des jeunes, des gens en âge mûr, des aînés, des mariés, des célibataires, des personnes divorcées, des veufs, des veuves, des personnes handicapées, de toutes sortes, des gens normaux, quoi, dans la société d'aujourd'hui. Jésus va aborder un domaine délicat à aborder pour nous parce que chacun va écouter de son propre angle. Mais toutes les personnes que nous avons énoncées sont des êtres sexués. Ça fait partie de la bonne création de Dieu, cadeau, que nous partageons avec les plantes et les animaux d'ailleurs. Je suis tellement content que c'est le Seigneur qui a planté en nous le désir, l'esthétique, le goût de la beauté, l'appétit. Seulement si je vous demandais maintenant, chers amis, est-ce que c'est facile de gérer votre sexualité les 30 dernières années? Qui est-ce qui peut dire ici, pour moi, pas de problème? Vous levez la main tout simplement, que je vous vois. Il n'y a personne. En haut, je n'ai pas regardé. Ça va? C'est que c'est beau et c'est difficile en même temps, n'est-ce pas? Ça peut être quelque chose comme un joli torrent, et ça peut être quelque chose comme des flots impétueux qui nous promènent là où ils veulent bien. Je suis tellement content que Jésus ait abordé cette question. Lui, célibataire. Sexué aussi. C'est ce qui se passe dans le cœur de l'homme et fait la part des choses et apporte sa lumière dans ce domaine. Je fais la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, où nous en sommes. La loi et l'amour. Jésus va citer une loi où des gens bien pensants, avec une bonne conscience devant leur Seigneur, pensaient qu'il suffisait de ne pas coucher avec le partenaire de quelqu'un d'autre pour être en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur redit dans ce domaine encore, « T'es pas quitte pour autant la loi de Dieu. Ce qu'il veut, au fond, va bien plus loin. » Écoutons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu. « Vous avez appris qu'il a été dit, chapitre 5, verset 27, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Si ton œil, son œil droit, entraîne ta chute, écoutez ce que vous devez faire avec vos œils droits. Arrache-le. Jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est le mot hébreu pour enfer. C'est le dépôt d'ordures de Jérusalem qui s'appelle Gehinnom. Géhenne, c'est de là que vient l'image du feu qui ne s'éteint pas et des vers qui rongent toujours, dépôt d'ordures. Et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans le dépôt d'ordures de la géhenne. Et si ta main, maintenant il en a fini avec les yeux, droit, maintenant il commence avec l'organe de l'action. Et si ta main, droite, Je ne sais pas pourquoi la droite, il faudrait que je vous pose la question. Si, si, parce que moi je peux convoiter avec l'œil gauche aussi. Si, si. Même sans les yeux. Et si ta main droite entraîne ta chute, rebelote, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. D'autre part, il a été dit, si quelqu'un répudie, c'est la forme hébraïque de divorce. Écrire une lettre de divorce motivée, ça passe devant le tribunal qui doit statuer et après on peut répudier son conjoint. Ici, c'est un contexte hébreu, donc c'est dit qu'aux hommes, mais dans l'évangile selon Marc, il est dit la femme peut le faire, parce que c'est un contexte grec. Vous voyez, c'est circonstancié. D'autre part, il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Ça, c'est la loi de Moïse. On y viendra. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas, et après c'est très difficile, d'union illégale, de porneia, de... Je ne sais pas ce qu'on vaut Bible d'ailleurs, sauf en, dans un cas, dit la traduction, vous avez quoi ? D'infidélité ? D'inconduite sexuelle. C'est très difficile à savoir ce qu'il voulait dire. Je vous donnerai mon éclairage tout à l'heure, mais je suis une voix parmi d'autres. Sauf dans un cas, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère de la pousser. Jusqu'à là, la lecture de l'évangile, vous voyez pourquoi je vous ai dit, c'est un peu délicat. D'abord, nous sommes tous concernés, même si nous ne sommes pas tous dans le cas d'un conjoint vivant avec nous. Nous sommes des êtres sexués. Le regard, nous connaissons également. Je vous ai parlé de contexte de l'évangile selon Marc. Je vous rends juste attentif. Marc, chapitre 10, 5. Jésus, Marc 10, verset 5, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement, donc permettant dans certaines conditions la répudiation. D'accord ? C'est une loi à cause de la dureté du cœur, ce n'est pas une loi parce que Dieu le veut, c'est une loi de concession à cause de, il faut bien se débrouiller dans une société avec des gens pourris. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est à cause de la dureté du cœur que Moïse vous a prescrit ce commandement. Mais au commencement, Dieu fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera, etc. Vous connaissez ce que nous lisons souvent dans les mariages, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et Dieu n'unit pas seulement quand on se marie à l'église. Dieu unit tous les couples du monde. Parce que c'est les ordres de sa création. Ce que Dieu a uni, c'est tous les couples du monde. Et après, il est dit un peu plus loin, verset 11, il leur dit, Jésus, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et Jésus continue après avec les femmes pour vous montrer le contexte grec. Et si la femme répudie son mari et en épouse une autre, elle est adultère. Jusqu'à là, la lecture de l'évangile, vous allez me dire, on pourrait parler de l'amour de Dieu, hein ? Laissez-moi simplement vous dire que parler de l'amour de Dieu, c'est aussi parler des règles du bien vivre dans une société. C'est aussi ça, l'amour de Dieu. Jésus réoriente nos passions. Jésus va nous faire comprendre l'esprit de la loi. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il nous parle là de la relation homme-femme. Je vous rappelle que c'est le Sermon sur la montagne, un condensé de l'enseignement moral de Jésus pour nous. Des choses où on ne peut pas dire « Seigneur Jésus, je ne savais pas. Je voulais vivre selon mes désirs et mes désirs me disent toutes sortes de choses. Mes désirs me disent « Attache-toi à ta femme, la biche de ta jeunesse. » Et en même temps, mes désirs me disent, elle est jolie, elle, je pourrais m'attacher aussi à elle, si elle y consent. C'est ça l'ambivalence du désir. Si le désir est maître et roi, et plus le seigneur de la vie, est-ce que les désirs me disent ? Jésus enseigne et il aborde la question des relations hommes-femmes. D'entrée, j'aimerais encore dire une chose. La fonction biblique de la sexualité, c'est cadeau. Il y a une dimension reproductive, comme tous les animaux et les végétaux. Cadeau de vie, par délégation. Mystère de vie. Deuxième fonction de la sexualité, pour tout le monde, c'est d'en jouir. Même le passage de 1 Timothée 6, verset 17, nous dit que Dieu a créé toutes choses pour que nous en jouissions. C'est pour le plaisir. Pas pour le plaisir roi, mais pour le plaisir devant Dieu. Le plaisir saint, le plaisir légitime. C'est pour le plaisir. Deuxième. Et la troisième, c'est pour l'amour. On dit en français « faire l'amour ». C'est bizarre, parce qu'on peut faire l'amour sans amour. Hein. C'est juste un peu d'excitation des sens. Mais le mot « amour » est un piégé. C'est pour aimer l'autre. La sexualité est là pour avoir des relations saines et bonnes. Quelle que soit la condition que nous avons, la sexualité, je la vis. Un homme ne meurt pas pour ne pas avoir fait l'amour. Une femme aussi. Mais un homme peut mourir pour ne pas avoir été aimé et pour ne pas aimer. La fonction fondamentale de ma sexualité, c'est de me montrer que dans mon incomplétude et le fait de pouvoir considérer l'autre, que je sois célibataire ou marié, il y a une fonction qui est légitime et qui est belle. Moi, je dis merci Seigneur pour les pulsions sexuelles que tu me donnes, mais aussi pour la dimension de sexualité. Et au-delà d'un certain âge, ça continue, peut-être plus de la même manière, mais l'attention, la tendresse, le fait de compter pour quelqu'un, ça continue à 80 ans. Je ne le dis pas par expérience, je le dis parce que j'en ai parlé assez. Une caresse, ça continue à 90 ans. Les fonctions d'être considéré et de considérer. Les paroles gentilles, ça continue. Quels sont les différents chapitres que Jésus aborde ? Je vous rends juste attentif au chapitre 5. Qu'est-ce que c'est la lumière dans les grands domaines où, quand on le respecte, ça suffit pour bien vivre ensemble ? Bien vivre ensemble, c'est le souci du politique. Bien vivre ensemble, c'est le souci de nous tous. Quelles règles faut-il pour que nous vivions bien ensemble ? Jésus nous dit que le rapport homme-femme, nous l'avons dit, mais avant ça, il y a... Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne tueras pas », mais moi je vous dis que quiconque se met en colère entretenue contre son frère a déjà commis est passible de la même peine que le meurtre. Le premier domaine, c'est interpersonnel. Et Jésus dit « vivez réconciliés », tu n'as rien de plus religieux à faire que de vivre réconcilié, c'est le premier domaine, les relations et la réconciliation. Le deuxième domaine, et je trouve ça extraordinaire, et c'est là qu'on en est, c'est la relation homme-femme. C'est universel la relation homme-femme. C'est beau, mais ce n'est pas facile. Après 10h ou 10h30, pour rentrer chez moi, je passe une rue où je vois 80 prostituées à droite, à gauche, et autant d'hommes qui se promènent avec leur voiture. C'est vers chez moi, hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas un détour. Le rapport homme-femme. Et Jésus... Dans Matthieu chapitre 5, s'en prend vertement au machisme masculin. Mesdames, vous aurez toute la transposition mentale à faire. Et il leur dit, si tu convoites dans ton esprit la femme de ton prochain, tu es déjà passible de la même peine que la peine qui est imputée à l'adultère, c'est-à-dire une peine de mort dans l'Ancien Testament. Jésus dit, Tu te présentes devant le Seigneur en croyant que tu es clean, mais au fond de toi, tu n'as pas travaillé dans le siège même où je voudrais que tu travailles, dans ton esprit, dans ton regard, dans ta manière de regarder, dans ce qui te pénètre. Les yeux, les oreilles. Enfin, je dis les oreilles, il paraît que c'est plus féminin. Pareil, je ne suis pas sûr. Le bon usage des paroles, c'est le troisième domaine. Nous y viendrons encore plus tard dans notre programme d'enseignement. Là, comment faire face à la méchanceté? Nous y viendrons encore. Et enfin, comment faire face même à l'ennemi? Aimer tous, y compris l'ennemi. Et on apprend une chose chez Jésus, dans tous les coups, dans les cinq cas domaines, il leur dit, la loi n'est pas d'abord pour ton droit, pour te justifier, la loi est d'abord pour aimer en faveur de l'autre. Et ce que fait Jésus est assez extraordinaire. Il nous donne la base d'une société où il fait bon vivre. Il est possible que l'évangéliste Matthieu fait un cadeau à l'Église de son temps pour rappeler les paroles les plus importantes de Jésus, justement dans un climat où il y avait les guerres juives, d'insécurité politique, tout était chamboulé, il y a des hommes grecs, hébreux et romains qui en abusaient de leur volonté. Puisqu'il n'y a plus de règles de la société, il n'y a plus de règles du tout, et c'est le règne de la violence. Pour empêcher ça, Jésus dit, fais attention à ce qui se passe en toi, aime aussi dans ta tête. Regardez. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est le septième des 10 commandements. Il fut un temps dans les églises où on lisait toujours les 10 commandements. J'espère que les catéchèses modernes intègrent les 10 commandements. C'est la base d'une société où on se respecte les uns les autres, où on aime Dieu. Et il dit « Mais tu n'es pas quitte pour autant. Ce n'est pas parce que tu as obéi et tu n'as jamais physiquement fait l'adultère que tu es clean devant le Seigneur. » Et il ajoute « que la bonne attitude va plus loin. La bonne attitude pour comprendre « tu ne commettras pas d'adultère », c'est le renforcement par le 10e commandement. Et le 10e commandement, il dit « tu ne convoiteras pas la maison, ni la voiture, ni la femme, ni l'homme, ni le salaire de ton prochain. » Enfin, j'actualise un petit peu. « Tu ne convoiteras pas. » Il interprète un commandement avec l'autre. Et Jésus renforce ce commandement en disant qu'à la racine de l'adultère, il y a la convoitise. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Vous le retrouvez dans Exode 20, les 10 commandements par exemple. Dans tous les cas, il s'agit d'honorer le prochain. Parce qu'on honore Dieu, on honore l'image de Dieu qui est dans le prochain. Aussi après 15 ans de mariage. Aussi après 2 fois 15 ans de mariage. Aussi après 3 fois 15 ans. Qui est-ce qui a déjà plus que 3 fois 15 ans de mariage ici? Il y a quelques-uns, hein? Oh, tout ça. Vous avez des choses à nous dire. Ça continue à être beau? Ça peut. Dans le temps, on restait ensemble, même quand c'était plus beau. Aujourd'hui, c'est différent. La convoitise. La convoitise, ce n'est pas le désir. J'aimerais tout d'abord ici vous dire qu'on touche des endroits sensibles qui ont fait mal par le passé. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont divorcé parce qu'elles ont été abandonnées et d'autres qui ont divorcé parce que, voilà, les désirs se sont mélangés, on voyait plus clair et puis on ne voyait pas d'autre solution. C'est là-dedans que Jésus, et aussi pour chacun de nous, que Jésus nous dit, fais attention à ce qui se passe en toi. Le mariage n'est pas qu'une question de règles humaines, c'est une question de création de Dieu, bonne. Là, le mariage doit être grandement respecté dans l'Église, si et même si elle n'est plus dans la société. Nous avons des gens qui sont compétents. J'ai même trouvé sur Internet quelque chose que je vous propose de voir en 3 minutes. Il s'appelle Olivier Florent, sexologue, théologien, conseiller conjugal, c'est un croyant. Il y a d'autres sexologues, vous les consultez, ils disaient « Allez voir ailleurs, ça fera du bien, ça vous ramènera plus fortement dans votre couple. » Ce n'est pas tout à fait la tendance de Jésus, hein. On va écouter ce qu'il dit, mais j'aimerais aussi vous dire qu'il y a d'autres personnes compétentes qui peuvent nous aider. Il y a par exemple aussi des thérapeutes qui peuvent exister. Il y a pour les personnes divorcées un bon cours qui s'appelle cours-revivre.ch. Il y a toutes sortes de personnes qui peuvent aider. Mais prends au sérieux ce qui se passe en toi. Ce n'est pas juste indifférent. Ce n'est pas juste tendance. Allons écouter Olivier Florent. Je vous recommande aussi Christian Reichel, qui est à Lausanne, qui est aussi un des pasteurs de nos unions d'église, qui a des compétences et la discrétion nécessaires pour aider lorsqu'on sent que ça ne va plus. Je vous laisse découvrir. Il est de Paris, hein, on lui pardonnera. Ils ont beaucoup d'expérience là-bas. La fidélité.
On pouvait avoir des hommes qui couchent avec une femme sans l'aimer, en autre que la leur, je crois.
Dis. Ce n'est pas notre instinct sexuel, nos pulsions, qui est un péché. C'est Dieu qui l'a mis en nous. Le péché, c'est le fait de laisser ce désir devenir convoitise, c'est-à-dire scénario mental d'appropriation. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce scénario mental, Jésus dit, tu es capable d'influencer la conduite de ta personne à ce niveau-là. Tu n'es pas responsable de ce qui rentre, mais tu es responsable de ce que tu en fais. La fidélité, c'est plus que ne pas juste coucher avec le partenaire de quelqu'un d'autre. La foi chrétienne, je l'aime, parce qu'elle n'est pas seulement loi de vie, mais elle est aussi possibilité de demander pardon et de changer de vie. Et de orienter sa vie sainement. On retient de Jésus, il nous dit, fais attention à ton œil et à ta main. Prends au sérieux ce qui se passe en toi. Tu ne peux pas juste marcher aveugle dans les rues de Lausanne, mais tu peux vivre comme un disciple de Jésus avec la perception de ce qui vient par tes oreilles et par tes yeux. La convoitise, c'est lorsque le désir légitime s'installe et nous détermine. J'aurais aimé apprendre ça quand j'étais jeune adolescent. La distinction entre le désir légitime et la convoitise. L'œil et la main, dit Jésus, prends-la. Ça veut dire agis au niveau de ta perception et au niveau de tes actions. L'œil, perception. La main, l'action. Il est donc possible d'éduquer la manière de voir et d'agir. J'aimerais juste vous rendre attentif, Jésus dit que ton, c'est personnel, moi je ne suis pas à ta place. Tu as à mener un combat contre ce que l'apôtre Paul, dans sa manière, dans les épîtres, appellera la chair. Ce qui amène à vouloir désirer autre chose. Jésus dit, ça s'éduque. Jésus dit, tu n'es pas juste impuissant devant ton désir. Ton désir n'est pas roi, tous les désirs ne sont pas légitimes. Vous comprenez? Jésus dit, fais du ménage. C'est bizarre comme il est optimiste, le Seigneur. Souvent on dit, moi, je suis si impuissant devant ce flot impétueux. Je ne peux pas résister. Et j'ai entendu un sexologue qui disait, on ne peut pas résister toujours contre ses pulsions. Jésus dit autre chose. Et il utilise deux verbes qui sont étonnamment radicaux, même brutaux. Arracher, jeter, loin. Vous avez vu ? Arracher, ça veut dire prends-toi en main, hein, ça n'arrive pas tout seul. Ensuite, bien entendu, c'est des hyperboles d'exagération. Bien entendu qu'il prend des symboles. L'œil, c'est le symbole. Ne commencez pas à vous arracher les yeux. Hein. Je crois que j'aurai un problème le dimanche d'après. Ou la main. Mais dans ce que tu perçois mentalement et dans ce que tu fais physiquement, ne t'expose pas inutilement. Gère la sexualité pour l'amour, pour la charité, pour autrui, en faveur d'autrui, pas d'abord en faveur de ton fantasme. Fantasme, c'est quand ça s'installe. et qu'on pense que c'est un désir est légitime. Ça nous appelle à une mobilisation, à des actes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de fréquenter l'une ou l'autre revue ou image et de ne pas, en fin de compte, agir comme la personne que vous regardez. Quelle que soit la chose à laquelle vous vous exposez, vous êtes responsable. Je suis responsable. Pour aimer dans la durée, pour l'amour d'une société saine et de famille saine, il est possible de nous prendre en main. Veillez fermement à l'intérieur, prenez-vous en main pour les influences. Si quelqu'un ne travaille pas, moi je le plains. C'est difficile d'être oisif et de faire du ménage avec ses désirs. Que Dieu donne une activité saine à tout le monde, même quand il est au chômage. Et aux autres de bosser un peu moins pour prendre mieux soin de leur couple. Ce n'est pas étonnant que la courbe des divorces va augmentant en fonction de la non-respect du sabbat, du dimanche. Ce n'est pas étonnant. On se sature la vie, on n'a même plus le temps de prendre le temps de se dire tu, de se regarder dans les yeux, de passer du temps à ne rien faire d'autre que de se, d'être ensemble. Je plains les couples modernes qui ne font pas du ménage dans leur agenda. D'autant plus s'il y a des enfants. Si vous voulez aider les jeunes couples qui ont des enfants, frères et sœurs qui êtes aînés et qui avaient un petit peu de possibilités, de temps en temps, un soir, dites aux couples qui ont des petits-enfants, « Est-ce que je peux venir les garder ? Vous pouvez sortir. Allez au resto. » Ça peut être beau dans la durée, la tendresse. Ça peut être moche. Et les premiers qui trinquent, ce sont non seulement les couples, mais c'est en plus, s'il y a des enfants, les enfants. Être responsable devant Dieu, c'est de savoir que, Seigneur, moi aussi, pas seulement l'oisiveté, je vais m'occuper sainement, mais je vais ne pas m'exposer inutilement à ce qui excite la sensualité. Les sens, c'est bon, mais on peut exciter d'une manière malsaine la sensualité. Je ne peux pas aller dans les détails maintenant. J'ai juste photographié une affiche dans ma rue. Je ne vous dis pas quel est le nom de ce breuvage suisse, mais en tout cas, c'est pour les séductrices suisses. Les séducteurs sont à droite. Une société de séduction qui ne se limite pas aux ados. Vous savez, si le désir est roi, c'est juste pour vous montrer la difficulté du politique de légiférer aujourd'hui en France et en Suisse. C'est très difficile. Si le désir est roi, vous devez codifier 36 choses et il n'y a plus de dimension créationnelle du couple. Si le désir est roi, il n'y a aucune raison de brimer les désirs sexuels, l'adultère devient peccadille, les vraies fiançailles une anomalie et les adolescents peuvent s'accoupler dès 16 ans révolus, peu importe s'ils ne sont pas encore parvenus à l'âge de responsabilité. Je viens de lire propos d'un vieux pasteur, Germain Nicole. Nous sommes dans une société érotisée et être fidèle à Jésus, ce n'est pas juste de la louange, c'est aussi de la louange, mais c'est aussi une manière de regarder la vie. Pour ton bonheur et celui de tes enfants sur 99 générations. Alors, il y a un ajout sur le divorce. J'en touche un mot. Grosso modo, les pharisiens disaient, mais nous obéissons à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur. Mais voyons. Parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose convenant. Mais voyons. Vous avez déjà trouvé des gens qui sont parfaitement le complément de ce que vous rêviez ou fantasmiez ? Ce n'est pas vrai dans l'Église, ce n'est pas vrai quand on est entre frères et sœurs, ce n'est pas vrai quand on se marie. Le mariage, c'est plus ce qu'on en fait tous les jours, en se faisant l'un à l'autre, plutôt que de penser qu'on est fait l'un pour l'autre, ou bien ? Non ? Le mariage, c'est ce qu'on en fait tous les jours. Et alors, si on trouve quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie à sa maison, ou bien si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre. Bon, vous voyez, c'est code juridique. Mais vous savez, les religieux, ils sont tellement fiers d'avoir des lois comme ça pour en abuser, que la chose inconvénante, ça peut être n'importe quoi, pour la répudier. Elle ne correspond plus à moi, le petit roi. Chut ! C'est même permis, puisqu'il y a une loi pour ça, pensaient-ils devant Dieu. Grosso modo, Jésus leur dit, vous êtes tordus. C'est pas comme ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on s'aime dans la durée, la sexualité, elle est faite pas pour se servir du corps de l'autre, mais pour aimer. Vous comprenez? C'est ce que dit Jésus. La mesure de protection pour les épouses, c'est qu'il fallait au moins écrire une lettre motivée. Mais les gens se servent souvent de la législation pour la contourner à leur avantage. C'est très humain. Et Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça concerne aussi ce domaine. Il venait de le dire dans Matthieu chapitre 5. Il dit qu'il y a une mesure de protection pour les épouses. Pas n'importe quoi, il faut que ce soit motivé et que ça passe au tribunal de la ville. Ce n'est pas permis de reprendre après le remariage. Ça veut dire quoi? On ne s'amuse pas avec ces choses. C'est la raison pour laquelle il arrive même qu'il y a des moments où on se demande momentanément d'être séparé parce que prenez du temps. Pour le moment, vous avez un coup de folie là. Vous croyez que envoyer paître, c'est plus facile. Maintenant, j'aimerais juste vous rendre attentif et vous proposer une lecture de ce passage difficile. Femme et homme, pour le plan de Dieu, ce n'est pas un objet sexuel. Il faut que j'apprenne que je sois célibataire, non marié, ou que je sois un adulte, de ne pas faire un objet à mon service de quiconque d'autrui. La sexualité n'est pas faite pour de l'abus, c'est fait pour de la communion. Femme et un homme, pas un objet sexuel. Il s'en prend d'abord aux hommes dans ce monde-là, hébreu. Il s'adresse ici essentiellement à l'égoïsme masculin. Maintenant, je vous propose une lecture. Le non-abandon de la femme avec laquelle je m'étais uni pour la première fois est la volonté de Dieu. Tu veux savoir ce que veut Dieu? Ça. Ne t'engage pas à la légère, mais quand tu es engagé, dans ce qu'on appelle l'union conjugale. Le rapport de deux oui, une parole donnée comme on l'a entendu, pour Dieu, c'est sacré. Aimez-vous dans ce cadre, dans la durée. Rompre ce cadre, c'est violer la justice et la volonté de Dieu. Dites-le à vos enfants. Même si nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de revenir à cette lumière. Ce n'est pas étonnant que Jésus dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est en train de venir ». Nous tous, nous avons à apprendre. Il n'y a pas une juste et puis des injustes. Cette loi naturelle ne peut être violée impunément, sinon la recherche de cette satisfaction chez les femmes abandonnées donne un désordre qui entraîne la chute d'une civilisation, même si elle a une croix sur son drapeau. Même si elle a une croix sur son drapeau. Le non-respect de ceci fait de l'insécurité partout. Et une femme qui est seule et un homme qui est seul devient un candidat potentiel. Et en fait, il n'y a plus de sécurité, plus de respect non plus. Je continue. Pour une société où il fait bon vivre. Alors, voici la petite lumière que je vous propose sur « sauf en cas de infidélité », etc. Je vous rappelle ce que dit Jésus. « Quiconque répudie sa femme », d'accord ? Bon. Il y en a pour qui des rabbins, il y avait l'école stricte, s'il y a adultère. C'est la lecture évangélique habituelle. Sauf si l'autre est adultère dans la durée. Dans ce cas-là, je ne répudie plus sa femme, c'est rompu le divorce. D'accord? Le divorce est là. C'est notre lecture, l'école stricte. L'école de Shammai du temps de Jésus, c'est un rabbin. Et il y a une école plus lâche, l'école de Hillel. Si la femme loupe son rôti, sauf en cas de porneia. Ce mot est assez large. Il peut signifier quelque chose. La question c'est, est-ce que Matthieu a une clause d'exception alors que partout ailleurs, dans l'évangile selon Luc, dans l'évangile selon Marc, les paroles de Jésus font pas d'exception. On ne divorce pas. Est-ce qu'il y aurait ici une clause d'exception où Matthieu dirait, sauf dans ce cas? Alors bien sûr, les hommes aussi chrétiens se sont rués dans cette éventualité pour avoir un divorce légitime. Certains ont dit, non, c'est parce que quand il y a des problèmes de consanguinité, sauf en cas de porneia. Certains ont dit, non, c'est quand il y a vraiment de la prostitution de la part du partenaire. Et certains ont dit, non, c'est quand il y a simple adultère. Je sais qu'il y a des divorces où, malheureusement, c'est vraiment la faute d'un membre du couple. C'est rare, mais c'est souvent comme ça. On peut aussi pousser l'autre à la faute. Surtout quand on louche sur quelqu'un d'autre parce qu'on voudrait un autre partenaire. Ce n'est pas toujours le cas. C'est parfois le cas. Le sens de porneia, infidélité, conduite sexuelle déréglée, consanguinité, faudrait relire Lévitique 28. Certains disent prostitution, c'est plus que infidélité. Ou l'abandon de la femme, ou de l'homme. Vous voyez la difficulté du verset? Moi, je vous propose simplement une lecture, compte tenu de tout le reste qui dit qu'on ne peut pas, devant Dieu, accepter de renvoyer son partenaire. C'est un philologue que vous connaissez, Léon Tolstoï. Ça vous dit quelque chose? Tolstoï, Guerre et paix, il a aussi écrit Ce que je crois. Il a travaillé le serment sur la montagne. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez. Et moi je vous dis que quiconque répudie son partenaire, sa femme, répudie. Et après, à la place de dire, sauf en cas de porneia, il dit, quiconque répudie sa femme, outre le fait de son porneia, c'est-à-dire il louche sur une autre femme pour avoir une autre femme, donc en plus de son pensée adultère, l'expose elle à devenir adultère. Vous comprenez ? Dans quel cas je comprends ce que dit Jésus et c'est en cohérence avec le reste de l'enseignement des évangiles. J'ai retenu ceci. Frères et sœurs, il est possible de recommencer une vie, mais il n'est pas possible de recommencer une vie à deux sur la base d'un échec sans qu'on ait traité la première situation, sans qu'on ait vu qu'est-ce qui pousse quelqu'un à l'échec de sa vie de couple. Nous avons besoin de grâce et d'en parler. Et nous ne lions et ne délions pas juste comme ça à la sauvette. Ce n'est pas un droit. C'est trop important dans le plan de Dieu que son plan de création. L'indissolubilité du mariage, sauf en cas de décès. Nous le retrouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 2, ou 1 Corinthiens 7, 39. Paul envisage même le cas d'une désertion malicieuse du conjoint non-croyant. Si le conjoint non-croyant veut partir parce qu'il ne veut pas partager sa foi, vous êtes libre. 1 Corinthiens 7, 15. Mais ce n'est pas l'initiative du disciple de Jésus, c'est l'initiative du conjoint non-croyant. Vous saisissez? Sinon, on est attaché et c'est une institution de la création. Je termine. Le temps passe trop vite avec vous. Et nous voulons célébrer le repas du Seigneur, le repas du roi qui amène le royaume de Dieu dans nos cœurs et qui nous fait partager sa communion. Nous sommes faits pour la communion. Il faut bâtir sur de la lucidité. L'amour de ce que Dieu veut est bon pour la société et pour moi. Mais aussi sur la possibilité de la repentance ou d'un nouveau départ. J'ai vu cette affiche il y a quelques mois en arrière, vous l'avez vu, l'armée du salut. Un divorce peut transformer une personne. Alors que c'est fait pour l'amour et le fait de se mettre sur le piédestal et d'être aimé comme un roi et une reine, on peut vraiment arriver à l'enfer sur la terre. Vous avez vu? Dans ce cas, Jésus parle de l'enfer. Vous avez vu? Le pire, alors que c'était destiné au mieux. Que le Seigneur nous donne d'avoir beaucoup de couples qui ont des gestes de tendresse encore à l'âge de 100 ans parmi nous. Les leçons de Jésus. Voici son fondement. Au commencement, Dieu créa et ses cadeaux. Et toutes les autres lois, c'est qu'à cause de la dureté du cœur. Le rapport sexuel est à vivre et à développer dans le cadre de l'union conjugale. Il est là pour la communion. Entretenons cette communion. Nous ne sommes pas tous mariés, c'est la raison pour laquelle je vous dis, avons-nous des amis des deux sexes pour développer une amitié saine ? Saine. Saine. Sainte, on dit parfois. Le rapport sexuel peut se vivre, il est communion. Nous sommes faits pour l'intimité dans la durée. Prenons soin de ce qui se passe en nous. Que le Seigneur nous donne d'écouter le roi pour inviter le royaume de Dieu dans toutes les sphères que nous vivons, quel que soit notre âge et notre situation. Viens Seigneur. Amen.